Aude Siméon, bonsoir, merci d'être avec nous une nouvelle fois sur les ondes de Radio Maria.
Merci à Radio Maria de laisser la parole une fois par mois à la Fraternité du Bon Larron. Je rappelle à nos auditeurs que la Fraternité du Bon Larron est une association qui a été créée par un aumônier de prison, le père Yves Aubry, afin de transmettre une bonne nouvelle à tous ceux qui sont derrière les barreaux et afin de les soutenir derrière les murs et une fois qu'ils sont hors des murs. Alors notre petite association a trois missions principales. La première, c'est de soutenir par la prière tous ceux qui sont dans l'univers carcéral, aussi bien les personnes qui sont détenues que tout le monde, je dirais, de l'administration pénitentiaire et de la justice, parce que sans Dieu, on est trop pauvre pour aider les pauvres. Et puis, on a une mission avec nos correspondants. On essaye de maintenir un lien entre l'extérieur et l'intérieur en proposant à tous ceux qui le souhaitent et qui se sentent un petit peu seuls, perdus, rejetés derrière les barreaux, on leur propose des correspondants de l'extérieur afin d'échanger, tout simplement, afin d'établir des liens de confiance et d'amitié. Donc surtout, si vous connaissez des personnes qui se sentent un petit peu isolées, perdues, eh bien, parlez-leur de notre association. Nous avons des personnes bénévoles qui ne les jugeront jamais, mais qui auront envie, tout simplement, de créer un lien de fraternité avec elles et d'échanger, tout simplement, pour sortir de la solitude. Et puis enfin, on a une mission de réinsertion, on accueille des personnes qui sortent de prison et qui ne savent pas où aller, qui sont un peu perdues. Nous avons une petite maison dans les Yvelines où nous accueillons, nous hébergeons des personnes et nous les aidons à retrouver eh bien, tout simplement un emploi, à retrouver leur autonomie, en les aidant de façon fraternelle, chaleureuse, pour qu'ils retrouvent confiance en eux et que petit à petit, ils se sentent à l'aise, ils retrouvent des repères, des marques dans la vie sociale ordinaire. Voilà. Alors, dans nos émissions précédentes, que vous pouvez suivre en regardant les podcasts sur Internet, j'ai surtout donné la parole à des personnes qui sont passées par la prison et qui ont connu la vie carcérale. Et on a essayé de faire passer ce message d'espérance que passer par la prison, ce n'est pas forcément être dans une impasse. Ce n'est pas forcément un tatouage qui va vous empêcher ensuite de retrouver une place dans la société. Toute personne qui passe par la prison, bien, il faut que quelque part elle anticipe sa sortie, qu'elle la prépare, en essayant d'exploiter ce temps de la prison, que ce ne soit pas un temps mort, que ce soit un temps de reconstruction qui se fortifie ensuite à la sortie. Et on a eu la grâce eh bien, d'avoir des très beaux témoignages de personnes détenues qui avaient réussi à se reconstruire, à retrouver une place dans notre société. Alors ce soir, j'ai voulu un petit peu qu'on voit l'envers de la médaille, c'est-à-dire qu'on s'intéresse quand même à toutes ces personnes qui sont les personnes victimes. Même si, très souvent, une personne victime devient une personne infracteur, en fait, on a un peu tendance à oublier, avec le procès, on a un peu tendance à oublier qu'il y a des personnes victimes de tous ces infracteurs. Et que si les infracteurs vont avoir quelque part à payer une dette envers la société avec un certain temps d'incarcération, eh bien les personnes victimes, leur souffrance risque de durer bien sûr toute une vie. Et qu'elles, comme on dit, elles en ont pour perpète. Hein. Ce n'est pas quelques années, c'est toute une vie qu'elles vont avoir à porter en elles une souffrance terrible. Alors ce soir, eh bien, j'ai la chance d'avoir à mes côtés un couple, Martine et Frédéric, qui a été affecté par une tragédie et qui a accepté de venir témoigner de la façon dont ils vivaient cette souffrance de personnes victimes, qui ont accepté de témoigner de la façon dont ils considéraient la personne qui avait été l'auteur de cette tragédie. Et je vais leur laisser la parole. Donc, Frédéric, Cette souffrance qui finalement, je dirais, quelque part, vous rapproche des personnes infracteurs, parce que tout le monde est dans la souffrance. Comment est-ce que des années après la tragédie, des années après, elle vous occupe toujours, elle vous habite toujours?
En fait, notre tragédie à nous, c'est d'avoir eu un enfant assassiné en Corse. Et bah, ça fait 15 ans et oui, ça m'émeut toujours autant. Parce qu'en fait, on ne s'habitue pas à la mort d'un enfant. Il y a pas de... C'est une souffrance indicible, hein, il n'y a pas de mots. Quand on perd on peut être veuf, on peut être orphelin, mais quand on perd un enfant, il n'y a pas de mots. Et l'émotion, elle revient naturellement, aussitôt qu'on l'évoque. Voilà, c'est une souffrance de toujours, même si la vie continue, bien sûr, et que cette traversée, on va l'aborder, ce sujet. On peut continuer à vivre et bien vivre. Mais la mémoire de ce moment-là, la perte de cet enfant, reste un moment gravé à vie.
Oui, Martine, est-ce que justement cette souffrance qui tout à coup tombe sur vous, vous allez la ressentir de la même façon que l'a ressenti votre époux?
Alors, c'est vrai que il est un homme, je suis une femme, et nos sensibilités ne sont pas les mêmes. Et c'est chacun notre réaction face à la souffrance. Alors, je dis volontiers, on s'écharpe, on s'étreint, on s'ajuste indéfiniment. Et ça reste encore aujourd'hui toujours un vrai travail de tissage entre nous pour... Nous accorder dans nos façons de voir. Et autour de la mort de Martin, eh bien, voilà, ça fait 15 ans de ça. Nous sommes toujours ensemble. Et voilà, ensemble et en essayant de se comprendre chacun, de se respecter avant tout.
Alors, c'est ça qui est merveilleux, c'est que par rapport à d'autres histoires, hein, de couples impactés notamment par la perte d'un enfant et qui malheureusement se séparent comme si un mal devait engendrer un autre mal, une souffrance devait engendrer une autre souffrance. Et là, on est dans ce cercle vicieux terrible, hein, du mal et de la souffrance, comme si pour se débarrasser d'une souffrance, il fallait qu'il y en ait une autre. Vous, d'emblée, en tout cas pour vous Frédéric, d'emblée, il y a eu un refus de rajouter du mal au mal, de rajouter de la souffrance à de la souffrance. Est-ce que vous pouvez un petit peu parler justement de cette réaction immédiate qui a été la vôtre, Frédéric, quand tout à coup vous avez entendu la nouvelle que votre fils était mort? Comment est-ce que tout à coup, en vous, eh bien, c'est pas la colère qui l'a emporté, ou c'est pas l'anéantissement qui l'a emporté?
Eh bien, lorsque on est venu nous annoncer la mort de Martin, c'était en pleine nuit, un soir d'été, on a été réveillés, au pied de notre chambre, il y avait mon frère, sa femme et ma sœur qui étaient en larmes. J'ai tout de suite pensé à la mort de papa, qui était un homme très âgé. Il m'a dit non, descends. Et j'ai compris que c'était un de mes enfants. Et quand Patrice m'a dit « Martin est mort, un Corse l'a tué », à cet instant même, j'ai pas vu Martin mort. Mais j'ai vu la mort d'un autre jeune homme, Étienne, lapidé. J'ai vu cette image qui m'a traversé l'esprit. Pourquoi Étienne, je ne sais pas. Peut-être qu'avait-il 19 ans comme Martin. Et à cet instant-là, j'ai pensé à cet assassin et je me suis dit, peut-être a-t-il une femme, des enfants. En tout cas, il a des parents. Et j'ai eu une vraie compassion pour cette famille en me disant que moi, j'étais touché, mais cette famille était aussi touchée. J'étais dans le salon, et dans le salon, Il y a un petit coin prière, notre coin prière. Je suis tombé à genoux. Tomber à genoux, c'était laisser passer Dieu dans cet événement. Et à cet instant, j'ai reçu une paix incroyable, une paix profonde, et je savais que je pardonnais. Ça s'est fait hors de ma raison, ça s'est fait au plus profond de mon cœur, sûrement, mais ça n'a pas été raisonné. C'est Dieu qui est passé.
Et Martine, toi, comment ça s'est passé?
Ben voilà, moi, quand j'ai vu mon beau-frère et mes deux belles-sœurs derrière la porte, je n'ai pas pu leur ouvrir la porte. J'ai laissé Frédéric le faire. J'ai compris aussi que c'était grave. Et quand mon beau-frère a juste dit « Martin est mort », je me suis enfuie dans le jardin. Et j'ai hurlé le nom de Martin pour le maintenir vivant, sans doute. Et là, je me suis sentie vraiment disloquée, arrachée. J'ai senti que je m'effondrais. Et ce qui s'est passé, c'est qu'au fond du fond de cet enfer, de ces ténèbres, hein, j'ai senti aussi de mon côté, ce qui est drôle, enfin ce qui est curieux, c'est que on n'était pas ensemble à ce moment-là. Frédéric était à l'intérieur, j'étais à l'extérieur. Mais j'ai senti une force, une profonde force d'amour. Et j'ai su à ce moment-là que je n'allais pas mourir. J'ai su que ma vie serait plus forte que sa mort. Et j'ai su que mon amour serait plus fort que la haine. Et apaisé, j'ai pu rentrer et rejoindre Frédéric. Et ensemble, on n'a pas eu besoin de se le dire, mais c'était comme une évidence, on n'ajouterait pas de la violence à la violence. Ça, c'était très clair pour nous.
Alors, il y a une sorte de miracle de la grâce qui vous touche tous les deux et qui font que vous dépassez ce mouvement naturel qui serait la colère, la haine, la violence, la vengeance, hein. Vous êtes traversé par la grâce de l'amour et vous pardonnez. Et ce qui est assez merveilleux, c'est que de même qu'il y a un cercle vicieux du mal et de la souffrance, il y a un cercle vertueux de l'apaisement et de l'amour. Et je crois que c'est ce que vous avez vécu avec les vôtres, avec tous vos proches, notamment lors de cette veillée de prière auprès de votre fils.
Oui, Martin, on a pu, après quelques jours, ramener le cercueil de Corse. Et on a eu l'autorisation de réouvrir ce cercueil, ce qui est assez exceptionnel. Et il y a eu une veillée de prière, mais là, c'était des dizaines, même des centaines de jeunes qui sont venus toute la nuit auprès du corps de Martin. Martin était très beau, magnifique, dans son cercueil. Et ces jeunes, ils arrivaient en colère, en larmes. Et ce qui était incroyable, c'est que au lever du soleil, il y avait sur les visages des sourires. La vie était plus forte que la mort, l'amour était plus fort que la haine. La lumière était plus forte que les ténèbres. Et c'est vrai qu'on a vraiment vécu quelque chose d'un passage. Mais nous avons tous, disait que c'était contagieux, le pardon, mais c'est vrai. On a vécu quelque chose qui était de l'ordre d'une transfiguration du mal en bien. Et avec ce désir d'être des artisans de paix. D'ailleurs, on a pris, comme après, il y a eu une marche, ils étaient tous pour un monde de paix, tous avec Martin pour un monde de paix. Il y a eu vraiment Martin a été messager de paix.
Oui. Et justement, cette terrible tragédie, elle porte déjà ses premiers fruits, dans cette nuit où il y a tous ces jeunes qui vont petit à petit s'apaiser dans leur premier mouvement d'indignation et de colère contre l'absurdité de la mort de ce jeune qui est votre enfant. Et je dirais ces fleurs de ce mal, hein, ça va continuer, puisque en fait, il y a même certains de votre famille qui vont trouver la foi grâce à cette tragédie, si je puis dire. Il y en a qui finalement la foi était un petit peu loin de leur vie, et tout à coup, devant cette tragédie si bouleversante, ça leur émet en face des choses importantes de la vie, du sens de la vie. Qu'est-ce qu'on fait sur cette terre? Pourquoi le mal existe? Et certains de votre famille ont retrouvé la foi.
Oui, et puis même à la sortie de la messe, qui a rassemblé beaucoup, beaucoup de monde, moi j'ai des amis de Saint-Germain qui n'ont pas la foi et qui m'ont dit « mais les cieux se sont ouverts ». Et en fait, il reprenait sans le savoir l'expression d'Étienne en mourant qui dit « les cieux, je vois les cieux ouverts ». Et moi, la compassion qui m'a traversé, eh ben, c'est comme Étienne qui dit « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Ne leur tient pas compte de ce péché.
» Alors, on aurait pu croire que ce moment était un moment presque trop beau pour être dans le temps. Et certaines personnes, d'ailleurs, qui ne comprenaient pas qu'on puisse être dans cette paix profonde et pardonner à l'assassin de notre fils, dissocier l'acte de la personne. En fait, ces gens-là nous attendaient presque un peu au tournant. Mais ce qui est incroyable, c'est que ça va faire bientôt 15 ans, au mois de juillet. Et cette paix profonde, elle a continué d'habiter le cœur de nos enfants, qui sont, Martin, en fait, on en parle très volontiers. Les petits-enfants, il y avait 2 petits-enfants à cette époque. Aujourd'hui, il y en a beaucoup plus. Mais ils parlent de Martin, les petits, les grands, avec beaucoup de simplicité. Et puis, il y a des amis de Martin avec qui on est encore en lien. Il y a eu un groupe de prière même qui s'est instauré à la suite de la mort de Martin. Il y a des témoignages encore sur Facebook, en fait, régulièrement, de gens qui nous ont soutenus, écrits, partagés, qui ont eu besoin aussi de nous rencontrer. Et puis, dans la famille élargie, il y a ces enfants qui nous ont manifesté leur amitié par rapport à Martin, des petits qui, aujourd'hui, témoignent de ce que Martin est vraiment présent dans leur vie d'étudiant, dans leur jeune vie d'adulte. C'est quelque chose qui dure. Et c'est ça qui me touche énormément, c'est que ça n'a pas remis en question ces données, quoi. Voilà, c'est une grâce. Dieu ne reprend pas. Et ce qu'il nous a donné ce jour-là, d'une manière familiale, aujourd'hui, c'est encore là. Et ça, c'est vraiment... c'est beau.
C'est magnifique.
Dieu a fait alliance avec son peuple. Moi déjà, au moment de la mort de Martin, j'ai eu cette motion intérieure qu'il fallait que je dise le nom de Dieu. Et c'est pour ça qu'il y a eu beaucoup d'articles dans la presse où j'ai pu témoigner de ma foi et témoigner du pardon qui m'avait traversé. Et le mot qui me venait, c'était le mot « alliance ». Dieu a fait alliance avec son peuple et cette alliance, elle est pour toujours.
Elle est un
don.
Pour
chacun de nous, pour toujours.
Elle est un don et dans le mot pardon, il y a le mot don.
Voilà.
Hein, il y a le verbe donner. Alors c'est vrai que ça va durer, cette grâce qui vous habite. Ce n'est pas tout à coup quelque chose de l'ordre de l'émotionnel éphémère. C'est quelque chose de très profond. Et vous allez de façon très concrète en témoigner au moment du procès. Est-ce que vous pouvez un tout petit peu évoquer comment se passe ce procès? D'une part, comment vous, on vous écoute? Et puis d'autre part, vous, quelle est votre attitude par rapport à l'assassin, à sa famille?
Le procès se passe en Corse. L'assassin est un homme de 33 ans. Et l'assassin, déjà, il avait pris la fuite. Hein. Il avait fui au maquis. Il a fallu qu'il se rende parce qu'il n'avait pas été soutenu par la population. Mais après, il était pas en vérité. Il disait que c'était une violente bagarre, il s'était fait une blessure au cou, et convoquait des témoins qui étaient visiblement... Enfin, au procès, c'était même presque... Enfin, c'était pathétique, quoi. Mais tout le procès était dans le mensonge. Et nous, c'est vrai qu'on aurait aimé avoir la vérité. En plus, la parole du premier jour du procès, l'évangile de ce jour-là, c'était Jean 8, « La vérité vous rendra libre ». Mais malheureusement, il n'y a pas eu de vérité au procès. Et moi, au deuxième jour du procès, je me suis dit « c'est pas possible, cet homme qui a tué Martin, il a été le bras armé d'une violence sociétale, mais il ne recommencera pas ». Donc, j'ai demandé à mon ami qui était notre avocat d'aller voir les avocats en face. Il y avait Maître Mariagi, puis Maître Henri Leclerc, qui est très connu. Et je lui ai demandé en disant « mais que Dominique dise la vérité ». Et puis que moi, j'aurais aimé qu'il sorte de prison tout de suite. Il avait déjà fait 3 ans de prison. Et puis qu'on ait témoigné tous les deux dans les collèges et lycées de Corse. Parce qu'en fait, les jeunes en Corse portent des armes sur eux, et que bah, malheureusement, c'est un engrenage, hein, on met le doigt dans une machine infernale, la violence. Et c'est pour ça qu'en Corse, il y a tant de violence encore. Et j'aurais aimé qu'on aille témoigner. Bon, ça ne s'est pas fait, peut-être que ça se fera un jour, ça reste toujours dans mes prières.
Oui, et vous avez demandé le minimum, hein, le minimum pour ce jeune homme.
Oui, on n'a pas demandé de... Il a eu que 10 ans. Enfin, c'est pas beaucoup. Le procès d'avant, c'était un viol. Il avait pris 19 ans. Là, pour l'assassinat d'un Martin, 19 ans, 10 ans. C'est-à-dire qu'il a fait 6 ans de prison. Mais de toute façon, c'est pas... Moi, je compte pas comme ça. De toute façon, j'avais pas envie de... Moi, ce qui m'intéressait aujourd'hui, c'est de dissocier l'acte. Bon, qu'il fallait qu'il y ait un jugement, bien sûr, et de l'homme. Et c'est vrai que encore aujourd'hui, j'ai vraiment envie que l'homme se reconstruise. Je n'ai pas envie de l'enfermer dans son acte. Donc,
Alors c'est un petit peu ce que tu fais maintenant, Martine. Hein, c'est-à-dire qu'en fait, cette épreuve, elle continue de vous habituer et en même temps, elle continue de porter ses fruits de façon incroyable, puisque non seulement vous témoignez, hein, mais encore, Martine, maintenant, tu fais partie de programmes de justice restaurative. Est-ce que tu peux un petit peu développer quel est le rapport, en fait, entre ce que tu as vécu et puis ces programmes ?
Moi, je suis arrivée dans la justice restaurative par le biais d'une amie qui m'y a invitée, en sachant que j'avais vécu ce drame avec la mort de notre enfant. Et j'y étais invitée au départ en tant que victime. Et j'ai vu combien le témoignage de notre histoire pouvait amener ces détenus à se poser les vraies questions, voilà, savoir... Déjà, reconnaître leur acte eux-mêmes, hein, chacun son histoire. Mais ils ont été touchés de voir que je pouvais justement être dans ce pardon et que eux-mêmes, en fait, pouvaient aussi se pardonner à eux-mêmes. Et c'est venu très naturellement. J'ai eu envie de faire partie aussi de cette équipe de formateurs, enfin de facilitateur, parce que j'ai senti que pour moi c'était une manière aussi, en leur offrant ce parcours, de l'offrir à Dominique, le nom de l'assassin de Martin, qui n'aura pas eu la chance de le suivre en prison. Mais je me dis, voilà, Dieu s'y retrouve quelque part. Et ce que je donne à ces détenus, c'est un peu comme si je le donnais à Dominique. Donc voilà, je continue de le faire. Et cette bienveillance, en fait, que j'ai pour tous ces détenus, eh ben, j'essaye de la cultiver aussi pour l'homme, pour Dominique. Voilà, de temps en temps, je me dis, si Dominique nous recontactait, comment ça se passerait? Je peux pas savoir, mais je me prépare en tous les cas, peut-être à pouvoir l'accueillir comme j'accueille ses détenus.
Oui, parce que je crois que maintenant, Dominique est libre, et vous continuez d'aller en Corse chaque été. Et donc, est-ce que vous appréhendez de tomber sur lui par hasard?
Carrément.
Martine, pendant quelques années, tu ne voulais plus aller en Corse. Mais non, moi, Martin aimait beaucoup la Corse. Donc, ça reste un lieu, pour nous, un lieu familial, un lieu où on vit tout simplement, une propriété magnifique, où il n'y a pas de maison, une petite bergerie. Et Dominique habite le village voisin. Donc, on sait qu'on peut se croiser. Bon, aujourd'hui, 15 ans après, on ne le reconnaîtrait pas. Mais moi, j'aimerais bien qu'il vienne me voir. Et j'ai pu l'exprimer l'année dernière dans un café. Quelqu'un, le patron parlait de la Corse, etc., avec passion. Et puis, j'ai pu lui dire que j'aimais la Corse, mais que la Corse m'avait fait mal. Lui, il connaissait Dominique, il connaissait notre histoire. Et il a pu... Enfin, je lui ai transmis le message. Mais si Dominique venait, d'abord j'aimerais qu'il soit en vérité, cette vérité qui n'a pas eu lieu, hein, cette vérité qui rend libre. Et puis, je ne sais pas comment je ferais, mais... Peut-être que la parabole du fils prodigue serait mon modèle.
Et toi, Martine? Comment tu réagirais si tu le rencontrais?
Je sais pas, mais j'aurais envie de lui dire que les mots MOTS auraient pu les sauver tous les deux, Martin et lui, parce que lui, je pense qu'il porte forcément ce poids d'avoir tué un jeune, et j'essaierais de pouvoir parler, voilà, de ce qu'ils n'ont pas pu faire tous les deux. Martin aurait aimé parler, mais lui, sa manière de parler, ça a été de tuer Martin à bout touchant. Après c'est difficile de savoir. Mais disons qu'en tous les cas, quand je lui ai dit ça au procès, je lui ai dit, monsieur, vous êtes rendu proche par force. Un jour, peut-être, on se rapproche autrement. Je lui ai dit ça... Et je le disais du fond de mon cœur, donc si je le revois, j'appréhende, je sais pas, je verrai. J'aimerais pas le rencontrer par hasard.
Oui,
c'est sûr.
Alors Martine et Frédéric... ont su faire ce qui, humainement, semble vraiment si compliqué, si difficile, à savoir pardonner à leurs ennemis. Hein. Aimez vos ennemis, nous dit Jésus, mais on se dit, mon Dieu, c'est incroyable, comment est-ce qu'on va y arriver? Et en fait, quand Dieu nous habite, il pardonne à travers nous, mais je pense que le pardon, c'est véritablement un chemin qu'il faut que vraiment tout le monde ose prendre, parce que c'est le seul chemin de libération. Qu'est-ce que tu en penses, Frédéric?
Je crois d'ailleurs que l'origine du mot pardon en grec, c'est libération. En fait, le pardon, moi je l'ai vécu comme la paix, c'est une libération, hein, parce que c'est le contraire de la vengeance et de la haine. Et le pardon, ça libère aussi la personne en face, parce qu'en fait, ça dissocie l'acte de la personne. Et l'acte, bien sûr, il est condamnable. Il peut y avoir des peines très lourdes de prison pour un acte. Mais l'homme, il a toujours le droit à se reconstruire. Et dans le cœur de Dieu, cet homme-là, bien sûr, c'est un enfant bien-aimé du Père. Donc, le pardon, c'est un... Si Jésus nous demande de pardonner 77 fois cette fois, c'est pas parce qu'il faut. C'est juste parce que c'est un chemin de survie, tout simplement. Parce qu'on est tous blessés, on est tous blessants dans notre vie. Et si on veut arriver à la fraternité, le pardon est un chemin nécessaire, des petits, des grands pardons. Et c'est un chemin qui est un chemin de libération. Ça ne faut pas que ce soit un chemin de devoir. C'est juste un... Mais alors, c'est vrai qu'avec la personne de Jésus dans notre poche, dans notre cœur, c'est plus facile. Donc, mais je sais qu'il y a des gens qui ne croient pas en Dieu, mais qui ont pardonné aussi et qui arrivent au même résultat. Il faut croire en l'homme, bien sûr. Il faut croire à l'amour. Il faut croire à des forces plus grandes que soi. Mais le Christ nous demande de pardonner parce que il sait que c'est bon pour nous. C'est pas pour autre chose.
Oui, je crois que c'est un très beau message d'espérance, Frédéric et Martine, que vous donnez en disant que les personnes qu'on a pu blesser, elles peuvent pardonner. Hein, elles peuvent comprendre qu'il y a eu un acte qui n'a pas été la bonne réponse à un moment donné, à un énervement, à tout ce qu'on veut. Et que si vous pardonnez, ceux qui ont commis cet acte, il faut qu'ils apprennent à se pardonner. Hein, à se pardonner. Et puis peut-être que demander pardon, c'est aussi libérateur. C'est peut-être aussi un chemin de libération hein, pour ceux qui sont derrière les barreaux. C'est de se dire, je suis plus que ce que j'ai fait. Mais en tout cas, je peux reconnaître ce que j'ai fait et puis je peux essayer déjà, même si l'irréparable a été commis, je peux demander pardon à tous ceux qui ont été blessés par ce que j'ai fait. Et là, déjà, je dirais, c'est formidable au point de vue de la dignité, cette réhabilitation de la personne qui est capable d'assumer la vérité, d'assumer ce qu'elle a fait, de se responsabiliser. Et d'avoir le courage de demander pardon. Je pense qu'il y a le courage de pardonner et puis il y a le courage de demander pardon. Et je crois que ce sont ces deux courages qui font la dignité de la personne humaine et qui sont véritablement un chemin d'espérance. La faute ne nous emprisonne pas et c'est d'ailleurs, je dirais, c'est tout le sens là, du carême qu'on est en train de vivre. On sait que si Jésus meurt sur la croix, c'est pour nous libérer justement de cette faute, de ce péché, parce qu'on est fait pour le bonheur et que Dieu veut notre bonheur. Et que le bonheur, ça passe par le pardon, qu'on le demande ou qu'on l'offre.
Et moi, j'aurais rajouté quelque chose sur le pardon. Tu viens d'évoquer la croix. Et en fait, le Christ en croix, il ne dit pas « je vous pardonne ». Le Christ ne nous demande pas de dire « je te pardonne », il dit « Père, pardonne-leur ». Moi, en fait, Dominique, quand j'ai eu cette pensée de compassion, c'était « Père, pardonne-lui, il ne sait pas ce qu'il fait ». Moi, en tant qu'homme, on est incapable de dire « je te donne ». De quel droit, d'ailleurs, on pourrait dire « je te pardonne », je ne saurais pas faire. Mais « Père, pardonne-lui », je crois qu'on est tous capables de le faire. « Père, pardonne-lui ». Parce qu'on a tous des histoires compliquées, plus ou moins compliquées, on a toujours des circonstances, mais Père pardonne-lui, à mon avis c'est possible.
Merci beaucoup Martine et Frédéric. Alors on souhaite à tous les auditeurs de Radio Maria d'avoir un beau chemin de carême vers la joie de Pâques, vers la joie de la résurrection. Et je crois que voilà, il faut toujours garder confiance. Confiance en l'avenir, confiance en la vie.
Merci, Otiméon, Frédéric et Martine, d'être venus sur les ondes de Radio Maria. Chers auditeurs de Radio Maria, c'était notre émission Univers carcéral. Vous pouvez réécouter cette émission en podcast sur notre site internet radiomaria.fr ou notre application Radio Maria Play.